liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 41 de l'année 2012. Salut Nicolas.
Salut Manu.
Salut Luc.
Donc le sommaire, 9 articles. On va vous parler de matériel libre, du Grenelle de l'open source qui est demandé, d'un article un petit peu philosophique, on va dire en tout cas, que la Linux Foundation qui travaille sur le Secure Boot, un petit échange avec Fleur Pellerin qui est venue discuter à l'Open World Forum, les big data et beaucoup d'argent. Il y a plein de fric là-dedans, il semblerait. Les brevets, donc un petit peu d'histoire pour voir les brevets logiciels dans le contexte d'Apple, les développeurs qui font de l'open source qui sont très recherchés. Et pour finir, une petite discussion entre justement l'open source et le libre, les différences, les avantages de chacun. Futura Techno, fête de la science, l'open hardware pour construire soi-même ses appareils, un article de Sylvain Biget. Donc ça parle d'open hardware, c'est un sujet qui revient de temps en temps. Est-ce que tu peux nous rappeler, Nicolas, de quoi il s'agit ?
Donc l'open hardware, moi je préfère le free hardware pour les mêmes problèmes que open source, logiciel libre. En fait, le principe, c'est d'avoir accès à des plans, du matériel complètement libre, qu'on peut modifier, créer soi-même, partager, les mêmes 4 libertés qu'on retrouve dans le logiciel libre.
Du matériel libre, il n'y a rien de tel. L'article parle notamment d'Arduino, qui est la star montante et utilisée à tout va. Donc la RepRap aussi, qui est une imprimante 3D qui est pas mal mise en avant. Et puis le petit détail que j'aime bien, des documentaires qui sont faits sur du matériel libre, comment le mettre en place, l'utiliser. Et j'ai pas encore jeté un œil, je sais pas pour vous, c'est une gamine qui fait ces documentaires, enfin qui les présente, et pour montrer à quel point c'est facile à faire et rapide.
Le journal du net, Grenelle de l'open source, les 10 propositions du CNLL par Antoine Crochet-Damet. Le CNLL, c'est le Conseil National du Logiciel Libre, une association d'entreprises qui font du logiciel libre. Et donc bah là, on a un propos tout à fait économique que moi j'ai trouvé très intéressant.
Alors là, on retrouve, enfin avec le CNLL, va un peu dans la suite de la circulaire Hero, avec une mise en avant du logiciel libre dans les appels d'offres, privilégier le logiciel libre quand c'est possible, quand ça se justifie en tout cas au niveau financier ou commercial. Donc c'est un peu le prolongement de la circulaire Hero pour les entreprises, et c'est un peu ce qui pourrait faire bouger les choses dans le monde de l'entreprise.
Alors justement, c'est ça qui est intéressant, ils rebondissent sur la circulaire Hero et ils font 10 propositions.
Première proposition, obligation d'utiliser les standards ouverts, recommandation d'utiliser le logiciel libre à coût global, risque et efficacité comparable, gouvernance encourageant la mutualisation au sein des administrations, 4e point, faire barrage aux brevets logiciels, 5e point pour des standards ouverts, vraiment ouverts, agir pour préserver la neutralité du net, maintenir des dispositifs existants en tenant compte des spécificités du logiciel libre. Donc ça, c'est des choses qui nous échappent. Elles sont des dispositifs, je suppose, de financement et autres. Maintien et renforcement des recommandations relatives au logiciel libre dans les appels à projets lancés par le FSN, l'ANR et le FUI. Donc là, on est plutôt dans le domaine de l'innovation et de la recherche. Recommandations relatives au libre dans l'éducation et mécénat de compétences. Ça, je ne sais pas ce que c'est.
Il n'avait rien compris, rien compris. Il n'a rien compris.
Agoravox, la technique est un instrument de la domination. Un article par Mozi.
Ça, c'est un article pour toi, Luc, spécialement choisi parce que ça parle un peu philosophie, domination, la technique, la connaissance, avec une jolie petite histoire sur le feu notamment.
Donc l'auteur en fait prend l'exemple de la découverte et de la découverte du feu par les hommes préhistoriques, les hommes des cavernes, et en fait fait la distinction entre la personne qui était chargée d'entretenir le feu, qui en fait c'était une obligation sociale, en fait il ne pouvait pas le surveiller lui-même, enfin tout seul dans son coin, il fallait absolument qu'il soit avec les autres, donc qu'il partage, qu'il contribue à l'entretien du feu. Et en fait la personne qui a été capable de fabriquer du feu la première fois, où elle avait intérêt à tout garder pour elle, pour avoir la puissance et avoir un peu un effet mystique sur tous ses congénères autour de lui.
Moi ce que je retiens de cet article, qui est extrêmement bref mais qui est manifestement le point de départ d'une série d'articles qu'on n'a pas encore lu, c'est cette notion de domination. Il se pose immédiatement, dès qu'on pose la question de la liberté, on pose nécessairement la question de la domination, parce que s'il n'y avait pas de domination, on serait libre par définition. Et donc, c'est bien qu'elle soit posée pour le coup. Développé.com, la Linux Foundation arrache une solution pour le Secure Boot de Windows 8 qui empêche le démarrage d'autres systèmes. Donc Manu, le Secure Boot, tu peux nous rafraîchir la mémoire ?
Et oui, encore une magnifique invention de Microsoft pour assurer notre sécurité. Pour assurer la sécurité, il n'y a rien de tel que de nous empêcher de mettre ce qu'on veut sur notre ordinateur. Oui, l'utilisateur, c'est vache, mais il fait des fois des bêtises. Donc là, ils veulent s'assurer qu'au démarrage, l'ordinateur vérifie que ce qui va être lancé est bien autorisé par le constructeur. Donc il n'y a pas de souci, hein, Microsoft, ça va être autorisé, c'est eux qui le mettent
en place, hein, ils vont avoir les bonnes clés qui vont bien.
Enfin, autorisé, oui, mais juste Windows 8, puisque le principe, c'est aussi d'interdire l'installation des vieilles versions de Windows.
Et oui, ça va être pratique, hein, rien de tel pour faire un bon marché du renouvellement, et puis pour bloquer les autres systèmes d'exploitation, alors qu'on appellerait virus, hein, si on s'appelle Microsoft, je suppose. Oui, c'est dangereux d'installer n'importe quoi. Donc là, pour le coup, bah, les gens qui font du logiciel libre, ils ont essayé de se défendre. Il y a Red Hat, je crois qu'il y a SUSE, qui ont trouvé des solutions, ouais, en allant quémander des autorisations à Microsoft, hein, on n'y coupe pas. Et bien là, au moins, il y a un acteur qui paraît légitime, c'est la Linux Foundation, la Fondation Linux, qui regroupe pas mal d'acteurs, justement, d'entreprises, qui va voir effectivement Microsoft pour demander une clé, mais pour centraliser tout ça, essayer de passer par un petit logiciel intermédiaire qui va s'assurer de pouvoir lancer n'importe quel système d'exploitation une fois qu'on lui a passé les bonnes clés.
D'un côté, c'est une bonne nouvelle pour le monde du libre, puisque ça va permettre l'installation de GNU Linux sur une machine. Le problème, c'est qu'on va se retrouver lié à Microsoft, et qu'aujourd'hui, Microsoft est assez gentil pour nous transmettre une clé pour booter, mais qui dit que demain, ils ne reviendront pas sur leur décision, et que du jour au lendemain, les machines refusent de démarrer les systèmes installés, ou qu'on se mette à considérer GNU Linux comme un virus sur la machine. On se retrouve lié à Microsoft par ce système-là.
Bah, a priori, il y aurait une raison qui fait que Microsoft ne va pas être le seul à utiliser les clés, c'est qu'ils ont peur d'être attaqués pour abus de position dominante, ce qui est clairement le cas, et s'ils ont les clés de la maison, bah, voilà, ils sont vraiment dominants, archi-dominants. Donc on peut être à peu près tranquille sur ce sujet-là, mais ça n'empêche, c'est quand même pourri, c'est eux qui ont les clés.
Après, attention quand même, c'est pas Microsoft qui impose ce système-là, Microsoft a juste proposé aux constructeurs de le faire. Bon, les constructeurs n'ont pas vraiment le choix face à 99% de parts de marché de Microsoft, mais potentiellement, les constructeurs pourraient très bien refuser la solution Secure Boot et autoriser l'installation de GNU Linux sur une machine.
Quelle blague !
CIOonline.com, Open World Forum, vif échange entre Fleur Pellerin et l'adjoint au maire de Paris, par Bertrand Lemaire. Donc l'Open World Forum, c'est fini, hein, je crois que ça s'est fermé ce week-end, et donc il y a eu des discussions manifestement sur les startups et l'importance du numérique en France et à Paris, et ça a frité sévère.
Bah, ça a frité un peu sur le, en fait, autour d'un village du libre en fait, qui serait monté en région parisienne.
Village numérique. Du libre, village tu numérique. Pousses un peu, parce qu'il y a, je crois que c'est 100 000 mètres carrés qui sont prévus, si c'était pour le livre, ce serait génial, mais j'en doute.
Voilà, donc un village, on va dire, du numérique, où ils voudraient en fait mettre des pépinières de start-up pour développer de l'open source et du logiciel libre, pour enfin, apporter des moyens à des personnes qui voudraient se lancer là-dedans et mettre en avant en fait au niveau industriel le monde de l'open source et du libre.
Et en quoi ils se sont frités? Parce que là, on a annoncé de la baston et je vois rien. Donc.
Ouais, l'article est un petit peu bizarre. Alors, il y a eu d'autres articles que j'ai lus. Il semblerait qu'en gros, c'est pas grand-chose. Hein. C'est qui tire la couverture à soi. La mairie de Paris, c'est elle qui organise ce village numérique, qui a l'air d'être fait plutôt sur la banlieue, proche banlieue parisienne. Et c'est aussi Paris qui dit, voilà, nous, on est une capitale importante au niveau mondial, au niveau européen. On est attractif. Et Fleur Pellerin, bah, elle en profite pour dire la même chose et pour faire entendre que c'est le gouvernement qui est pour quelque chose. C'est là-dessus que je comprends qu'il y a un petit peu de frittage. Alors, pour donner un petit chiffre, bah, Paris s'enorgueille d'être un très gros créateur de start-up. Londres, notamment, c'est ça qui est assez amusant. On dirait qu'il rejoue les Jeux Olympiques à Londres. C'est, voilà, Londres s'enorgueille de faire 1200 start-up qui sont créées sur son territoire, 100 000 emplois, donc des chiffres assez conséquents. Paris arrive derrière et dit, ouais, bah, c'est de la petite gnognotte. Nous, on fait 1800 start-up et 400 000 emplois sur la région parisienne. Vas-y, essaye de doubler ça. On est les meilleurs en termes de compétitivité numérique et on fait le village numérique pour le prouver. On espère qu'on arrivera d'ailleurs à se choper une petite place, hein. C'est peut-être l'occasion d'essayer de faire une maison du libre. On va voir ça.
Bon, en tout cas, on est content d'avoir la plus grosse. Oh, ITRmanager.com, open source en route vers les big data, un article de Bertrand Diard. Donc, big data, c'est quoi ce mot? Je sais que Manu, toi, t'aimes bien.
Ouais, c'est des grosses données, des très très grosses données. Non, c'est quand on a des bases de données énormes, gigantesques, qui peuvent pas être gérées traditionnellement comme on le veut avec des petites bases de données usuelles. Même des bases de données soi-disant un peu Formule 1 comme Oracle, ça le fait plus. Donc, faut passer à autre chose. Facebook, c'est un exemple de big data.
La grosse différence avec des data, on va dire, normales, c'est en fait la volumétrie est tellement gigantesque que généralement on ne peut pas le limiter à un seul utilisateur ou en tout cas une seule entreprise. Donc il faut des collaborations pour répartir la charge sur plusieurs machines, il faut justement des standards du coup pour communiquer avec tout ça. Et donc le logiciel libre et l'open source sont en très bonne position pour permettre l'utilisation des big data. Et donc la plupart des formats de big data sont des logiciels libres et utilisent massivement du logiciel libre. Et en plus de ça, donc c'est des grosses sociétés. Ça va être du Oracle, du Google, du Facebook, du Twitter. Et donc, il y a énormément d'argent en jeu. Et donc, l'article met en avant donc, la position de la France et des startups françaises dans le monde de l'open source et du logiciel libre pour s'incruster sur ce marché-là et essayer de récupérer cet argent qui aujourd'hui part beaucoup à l'étranger et en particulier en Amérique.
01net, les 100 millions qui ont fait de Steve Jobs un zélateur des brevets par Pierre Fontaine. Donc ça, c'est une petite anecdote, mais anecdote éclairante.
Alors l'anecdote, en fait, c'est que un an avant la sortie de l'iPhone, Apple a été attaqué en justice par Creative, donc qui vendait à l'époque des baladeurs et des lecteurs MP3, et a perdu son procès, donc était condamné à verser 100 millions de dollars à Creative. Et en fait, là, Apple s'est réveillé et a décidé de plus se laisser faire et de se mettre à breveter à tour de bras pour éviter d'avoir à nouveau ces problèmes-là, et en disant si jamais on nous attaque encore sur des problèmes de brevets, on pourra en sortir des paquets d'autres pour essayer de faire pencher la balance du bon côté. Et à partir de ce moment-là, Apple a commencé à tout breveter, y compris les boutons arrondis.
Oui, il semblerait que Tim Cook, nouveau gérant de l'entreprise, il utilise une phrase assez parlante. Apple n'est pas là pour innover pour les autres. Et donc, ils utilisent leurs brevets comme des armes pour aller récupérer du fric, ce qu'ils ont fait avec Samsung. Hein. 1 milliard de dollars, c'est pas rien. Donc, en gros, maintenant, ils dépensent plus d'argent là-dedans que dans le reste.
Et oui, plus d'argent que dans l'innovation. Et après ça, ils en dépensent aussi plein dans les brevets, donc ce serait quand même intéressant de voir quelle est la balance. Et puis c'est pas purement défensif, hein, ils attaquent tout ce qui bouge. Le monde informatique, les métiers de l'open source sont les plus recherchés par Véronique Arène. Donc ça, c'est un truc qui revient aussi très régulièrement, qui est pénurie de main-d'œuvre dans le domaine. Là, ça parle des États-Unis, même chose que chez nous.
Oui, hein, globalement, je sais plus quels sont les chiffres, mais il est toujours question de centaines de milliers de développeurs qui seraient en manque. Ce qui est amusant et ce que j'aime bien dans cet article, c'est le fait que... Oui, qui serait en manque, hein, n'est-ce pas? Donc, ce qui est amusant dans cet article, c'est le fait que les technologies qui sont libres sont un plus sur les CV. Et donc, quand vous pouvez mettre, j'ai fait tel logiciel libre, je connais tel langage qui correspond à des langages libres, eh bien, on est plus facilement vendu, on est plus facilement acheté à bon prix. Et donc, on est beaucoup plus compétitif que les autres qui vont faire des trucs un peu propriétaires, qui, pour le coup, sont moins faciles à répandre et à réutiliser, forcément.
Framablog, un logiciel libre n'est pas toujours collaboratif et de qualité. Un article de Benjamin Mako Hill, traduit donc par Framalang, l'équipe Tracknout de l'April.
Donc là, en fait, l'auteur essaye de comparer en fait logiciel libre et open source d'un point de vue qualité de code et collaboration. C'est généralement quelque chose qu'on a tendance à associer assez rapidement, que ce soit logiciel libre et open source, c'est la qualité du code, c'est souvent mis en avant. Et là, l'auteur démolit un peu ça et essaye de remettre un peu les pendules à l'heure sur le sujet.
Alors effectivement, il dit que dans l'open source, où c'est vraiment cette question de qualité de code qui passe avant tout. L'idée est que si jamais on a un logiciel qui ne marche pas et que manifestement le fer de lance d'open source ne marche pas, c'est une catastrophe, alors que dans le libre on essaye de le corriger et de réparer ça.
Oui, on met en avant l'éthique plutôt que la pratique. Donc moi je vous recommande d'aller lire cet article. Framablog fait quelque chose de pas mal ici. On voit que l'éthique est plus importante que la pratique. L'éthique c'est un gage sur du long terme. C'est plus facile de défendre une position en se basant sur de l'éthique, parce que la pratique que l'open source met en avant, si votre logiciel est pourri, et c'est souvent le cas. Justement, c'est ce dont l'article parle aussi. La grande majorité des logiciels sont faits par un développeur dans un coin et vont mourir de leur mauvaise mort assez rapidement. Mais c'est pas grave s'ils sont libres, parce qu'au moins, quand ils sont libres, on peut déjà être content qu'ils aient été libérés et que c'est dans un cadre éthique qu'ils sont là. Donc l'open source, c'est un peu moins intéressant. L'open source revendique moins facilement quand on voit tout ce gâchis et tous ces logiciels qui sont mal faits. Mais bon... allez lire, vous aurez une meilleure idée de ce débat-là, dont on n'arrêtera pas de parler, je pense.
Donc ce propos, moi je le trouve pas tout à fait convaincant, dans le sens où des éthiques et des idéaux moraux ou politiques, etc., de liberté et autres, on en a des tonnes, et que celui du libre, il vaut justement parce qu'il est validé par la pratique et que ça marche. Que si on fait des logiciels de merde, mais qui sont libres, on va avoir peut-être une poignée de gens, mais ça, c'est, pour moi c'est pas un modèle de société. Donc effectivement, les gens qui vont être très attachés à leur liberté vont pouvoir la garder à travers de ça, mais c'est pas le modèle de société, la révolution dont on pourrait parler. Donc je suis pas tout à fait convaincu par ce propos, et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Avant, il y avait que Microsoft, c'était l'ennemi principal, il avait l'avantage de faire des trucs qui étaient mauvais, et maintenant on a Apple qui fait quand même de très bons produits, même s'ils sont verrouillés, etc., Google qui fait de très bons produits, et la question de la pertinence et de la qualité de ce qui se fait dans le libre, moi, me semble fondamentale. Donc je suis mitigé par rapport à cet article.
On va vous laisser pour cette semaine, on va s'occuper de taper sur Luc, pour lui faire comprendre les avantages de l'éthique, mais c'est pas important. On en reparle la semaine prochaine.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.